Hello, friend.
Il t'a déjà baisé ici sur le canapé?
Non, pas encore.
Jan, director inside sales. They call me Jan the man.
Oh.
When you say people, you mean companies, right?
Actually, no, sorry. Jan the man. By people, I do mean people, humans, consumers.
Cocksucker!
Yeah, glad to tell you that fucking word.
I'll tell you what I think. Wanna know what I think, Fox?
I'm hanging on it.
Are you? I think you're upset about the shushing. I think you were pissed off about the Hitler mustache on your father-in-law. I think you shook up that can of soda on purpose. And I think you're clomping now, and you've made up some bullshit excuse about your feet, and it's all under the guise of Parkinson's. That's what I think.
Rouge, c'est non. Double rouge, c'est double non.
The situation's a lot more nuanced than that.
You think I'm really boring, don't you? Well, get used to it, because now that your father is dead, you can forget about ever going to law school. It's just you and dead people and freaks like me for the rest of your life.
You know, everyone says it's not supposed to make sense, like that's the whole point, dude. And I'm just saying, you know, that's like an excuse for lazy storytelling. Just don't sell me shite and tell me it's gold. All right, I might be stoned, but I'm not high. You know what I mean?
We are God. We're thoughts. We are as
Are you an idiot?
No, sir, I'm a dreamer.
Sur une musique entraînante, on retrouve avec grand plaisir Série Folie, nouvel épisode, l'épisode 29 de la saison 4 avec Aurore. Bonjour Aurore.
Bonjour.
Ça se passe bien dans la vie ?
Oui, tu veux vraiment qu'on en parle maintenant ?
Non, du tout. On est là pour parler séries télévisées, évidemment.
Mais oui.
Et on commence comme chaque semaine avec la revue des séries nouvelles que tu as pu visionner pour nous.
Oui, alors on va commencer par la moins convaincante, la moins importante aussi peut-être.
Ok, on va essayer de faire vite alors.
Pourquoi moins importante ? Parce que c'est une série qui est disponible uniquement sur le net et qui donc... Aura probablement moins de public que les autres dont je parlerai après. Il s'agit d'une série tirée d'un livre qui s'appelle Confess.
Uh-huh.
Voilà. Et ça nous parle de quoi ? Ça nous parle d'une jeune femme. On la voit au départ, elle subit une perte grave, vu qu'on la voit à côté de son amoureux, on imagine, très très jeune, sur son lit d'hôpital et probablement son lit de mort, mais on n'en sait pas beaucoup plus. Et on passe tout de suite beaucoup plus tard dans le temps, donc on fait un bond dans le temps, et là on va la suivre et découvrir vraiment petit à petit ce qui constitue sa vie, puisqu'au départ, on voit simplement qu'elle cherche un boulot dans une galerie d'art qui s'appelle Confess et qui est la galerie d'un artiste manifestement qui est déjà suffisamment connu pour pouvoir faire des expositions et rameuter pas mal de monde. Et d'après ce que j'ai cru comprendre, ça devrait se diriger vers une histoire d'amour. Même si se mêle aussi à ça, le fait on le découvre à la fin du premier épisode, un fils apparemment, mais qu'elle n'en a pas la garde. Et donc, il y a aussi un mystère autour de ça. Qui est exactement ce fils ? Est-ce que c'est le fils qu'elle aurait eu avec le jeune homme qu'on a vu au tout début de l'épisode 1 ou pas ? C'est pas encore très très clair, mais il faut avouer que c'est relativement intriguant. Quelque chose que je trouve aussi plutôt rafraîchissant, c'est que c'est plutôt un format drame, mais malgré tout, c'est concentré sur des épisodes d'une vingtaine de minutes à chaque fois. Donc, t'as pas vraiment le temps de t'ennuyer, y a pas vraiment de longueur ou quoi. Donc, c'est pas mal joué du tout. On n'a pas l'impression d'avoir affaire à quelque chose de vite fait, mal fait, quoi. Malgré tout, pour une série web, une web série, ça vaut malgré tout la peine, même si j'imagine que ça intéressera en priorité les personnes qui avaient déjà particulièrement apprécié le livre. Et tu le sais bien, je ne l'ai pas lu.
Évidemment.
Comme à chaque fois. Donc,
l'experte en la matière n'est pas au courant de tout.
Je suis incapable de te dire si c'est satisfaisant quand on a lu le livre ou pas. Bon, je passe à la seconde directement. La seconde dont je n'ai vu qu'un épisode parce que je compte pas en voir plus. Pour la première Confess, j'en avais vu deux. Mais comme je l'avais dit, ce sont des épisodes courts. La seconde, c'est The White Princess. Et c'est une série qui est proposée par Starz. Alors, ça nous parle de quoi ? C'est une série historique, The White Princess. Et ça nous parle de d'une princesse qui, justement... Donc c'est un épisode de la guerre, de l'histoire d'Angleterre plutôt, à un moment où il y a une sorte de guerre de succession entre deux familles. Alors ne me demande pas les détails, je suis incapable de te les donner et je serais incapable de te situer ça dans le temps, dans l'espace ou sur dans un arbre généalogique quelconque. Toujours est-il que nous avons une des familles qui vient de prendre le pouvoir et qui est en train d'éliminer gentiment toute la famille concurrente pour être sûr que un héritier quelconque ne vienne pas revendiquer le trône par la suite. Et notamment, dans cette famille concurrente, nous avons la princesse en question qui a un jeune frère qui doit donc être caché en espérant qu'il ne soit pas trouvé, parce que s'il est trouvé, même si c'est encore juste un enfant, il sera éliminé. Et on ne sait pas trop ce qu'il devient. J'imagine qu'au fur et à mesure des épisodes, on en saura plus, mais dans le premier épisode, on voit juste le moment où il faut vite le cacher et puis on n'a plus de nouvelles de lui. La princesse, elle, par contre, probablement pour des raisons stratégiques, est mariée de force, on peut le dire très clairement, vu qu'elle n'est pas vraiment ravie de la situation, avec le nouveau roi. Elle n'est pas ravie de la situation, notamment parce que son ancien amant aurait été tué par ce nouveau roi en question. Donc elle lui en veut particulièrement, déjà non seulement pour son frère, mais aussi pour son amant décédé. Et donc voilà, on se retrouve à suivre cette jeune femme qui va être accompagnée de sa sœur et de sa mère à la cour pour épouser le roi. Je dois dire que ça m'a pas emballé plus que ça. Et surtout, j'ai l'impression que le côté fiction historique dans lequel on a toujours le même type de personnages, et surtout de personnages féminins, très... un peu sauvage, très pragmatique, notamment dans sa manière de gérer sa sexualité, où, à un moment, il faut bien y passer, donc autant prendre les choses en main. Enfin, il y a des choses qui m'ont laissé un petit peu... pas totalement satisfaite, disons. Et puis, voilà, je sais pas. Pas beaucoup plus t'en dire parce que ça m'a tellement pas convaincu que je n'irai pas plus loin. Donc c'est pas mal fait, hein, mais ça me casse rien non plus, et étant donné que le sujet ne m'intéresse pas, voilà.
Tu passeras ton chemin.
Voilà, exactement.
Dernière petite série à revoir en début d'émission.
Dernière nouveauté, cette fois-ci. Il s'agit d'une série dont j'ai vu deux épisodes qui s'appelle American Gods. American Gods qui a quand même beaucoup plus fait parler d'elle ces derniers temps. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit de la nouvelle série faite par Brian Fuller. Brian Fuller qui est le créateur déjà précédemment de Hannibal, de Pushing Daisies. Donc il a déjà un petit palmarès de séries qui ont eu un beau succès critique derrière lui. Et il débarque là avec ce nouveau projet qui, à mon avis, en décontenance plus d'un, et moi en premier, je dois l'avouer, vu que déjà essayer de raconter l'histoire, c'est quasiment impossible. On a un petit peu, par exemple, comme dans certains épisodes de The Leftovers, une première partie avant le générique qui n'a rien à voir avec la suite, ou en tout cas, peut-être que ça reviendra plus tard dans la saison, mais dans l'épisode en lui-même, pas vraiment. C'est extrêmement... grandiloquent, je sais pas, flashy dans la mise en scène. D'ailleurs, le générique sur ce point est particulièrement bien adapté parce que t'as des lumières néons qui clignotent dans tous les sens. Ça ressemble, enfin c'est hyper, je dirais baroque, kitsch. T'as un mélange un petit peu de tout. Et ça ressemble à rien en même temps. Moi, la première scène, ça m'a un petit peu fait penser à du Spartacus, tu vois, avec des grandes coulées de sang dans un combat entre des Vikings qui arrivent les premiers sur dans le Nouveau Monde. Donc voilà, ça c'était un petit peu perturbant. Et puis après le générique, on se retrouve à suivre un type qui sort de prison. Donc cette fois-ci, on se retrouve à notre époque. Mais c'est pas pour autant qu'on est moins décontenancé, parce qu'il va vite rencontrer un monsieur assez bizarre qui lui conseille de l'appeler Monsieur Wednesday, si je me souviens bien. joué par Ian McShane.
Ça, c'est le point positif. Je suis content de le revoir, lui.
Oui, c'est en effet. Mais en même temps, disons que ça fait peur. ça fait peur parce que ça part dans tous les sens. On a un petit peu... On a des scènes qu'on ne sait pas trop comment interpréter. Par exemple, on a à un moment une femme qui englobe totalement une personne par son sexe.
Je me souviens bien.
Donc, on peut imaginer que ce sont des dieux, puisqu'il s'agit de American Gods, ça devrait représenter les dieux américains en question. Donc il y aurait une sorte de réflexion sur une mythologie de ce qui fait l'Amérique d'aujourd'hui et qui reprendrait aussi son histoire, d'où la scène d'introduction avec les Vikings, etc. Mais c'est vrai que c'est pas clair du tout. Et je dois t'avouer que j'ai beaucoup de mal avec la mise en scène. Ce serait plus sobre, ce serait peut-être moins difficile pour moi, mais là, j'ai vraiment du mal à accrocher, quoi.
Il y a ça, et puis je pense avoir fait la réflexion sur le deuxième épisode, comme quoi c'était lent.
Oui, il y a certaines scènes, en effet, où tout à coup...
ça se calme.
Il se passe rien, la musique est un peu répétitive, comme ça, et tu te dis, ouais, d'accord, ça sert à quoi, cette scène-là ? Enfin, il y a des moments, en effet, où tu comprends pas trop à quoi on joue. Moi, ce qui me dérange le plus, c'est le côté très grandiloquent, démonstratif, c'est un petit peu... Alors, la comparaison va vraiment pas être sympa, mais j'ai aussi pensé au film Le Roi Minos, s'il y en a qui se souviennent d'avoir vu ce film-là. C'était assez désespérant. C'est un film français pitoyable, et ça me faisait un peu penser à ça. C'est-à-dire qu'on essaie d'avoir un propos un peu mythologique sur... sur quelque chose, on sait pas trop quoi, mais en même temps, c'est fait avec... j'ai l'impression que c'est un petit peu les auteurs qui se regardent le nombril en disant vous allez voir ce que vous allez voir, à quel point on va révolutionner les choses, et en fait y a tout le monde qui les regarde en se demandant mais qu'est-ce qu'il fout avec son nombril ce type quoi. Donc voilà.
Non, tout le monde non, mais il y a
non,
toi.
Peut-être pas tout le monde. Alors, le deuxième épisode m'a paru un petit peu moins incompréhensible que le premier, mais de là à dire « Oh oui, j'ai envie de continuer la saison », j'en suis pas là du tout. Vraiment, je crois que si j'entends dire que tout à coup ça devient génial, il y a des chances que je me dise « Bon, allez, finalement, je vais peut-être quand même aller regarder ce que ça donne jusqu'au bout, puisque malgré tout, il y a toute l'idée que on ne comprend rien et que peut-être au fur et à mesure de la saison, on va finir par comprendre et que tout ça va prendre un sens. » Mais déjà rien que la mise en scène, moi ça me déplaît. J'ai entendu dire que c'était beau visuellement, etc. Moi ça m'agresse tellement c'est... moi je trouve ça super moche en fait. Mais je dois avouer que j'avais pas trop accroché déjà à Hannibal précédemment. J'avais regardé la saison 1 et puis j'avais laissé tomber. Et donc peut-être que j'ai pas suivi Brian Fuller dans cette voix plus sanglante. Et ça explique peut-être pourquoi ça m'a un petit peu décontenancé. Moi, j'aimais bien Pushing Daisies. En fait, c'était coloré, mais sympa, quoi. Voilà.
Ok, voilà. On verra, hein. Si tu t'y replonges, ce sera sur des infos reçues de cette série par rapport à une qualité grandissante, sinon tu passes ton chemin.
Oui, vraiment, là, je crois que je ne regretterai pas mon choix si je n'y retourne pas, parce que je vois pas bien comment ils vont pouvoir raccrocher les wagons.
Voilà. Moi, ce que je te dis... C'est qu'on en a fini pour cette revue de série télé. On va passer à la musique, si tu le veux bien.
D'accord. On va passer à Papa Loves Mambo de Perry Como, entendu dans The Middle.
Papa loves Mambo. Mama loves Mambo. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it, wow. Papa loves Mambo.
Papa loves Mambo.
Mama loves Mambo.
Mama loves Mambo.
Papa does great with it, swings like a gate with it, he loses weight with it, now he goes to, she goes fro, he goes fast, she goes slow, he goes left, she goes right.
Papa's looking for Mama, but Mama is nowhere in sight.
Papa loves Mambo, Mama loves Mambo. Having a fling again, younger than spring again, feeling that zing again, wow. Papa loves Mambo.
Papa loves Mambo.
Mama loves Mambo.
Mama loves Mambo.
Don't play the rumba and don't play the samba, 'cause Papa loves Mambo tonight.
Papa loves Mambo. Mama loves Mambo.
He goes fast, she goes slow, he goes left, she goes right.
Papa's looking for Mama, but Mama is nowhere in sight.
Papa loves Mambo.
Papa loves Mambo.
Mama loves Mambo.
Mama loves Mambo.
Having their fling again, younger than spring again, feeling that zing again, wow.
Papa loves
Nous voici de retour. Série Folie, ça continue avec le sujet du jour, Aurore.
Alors, le sujet du jour, ce sera la narration.
La narration, bah oui. Oui, pourquoi pas.
D'où me vient l'idée, mais de Fargo. En fait, de la saison 3 de Fargo qui se déroule actuellement devant nos petits yeux ébahis. Pourquoi ? Parce que il y a, alors c'est pas la première saison où ils font ça, hein, mais on voit qu'ils persévèrent et vont, j'ai l'impression, toujours plus loin dans l'exploration de c'est quoi la narration pour une série télévisée et qu'est-ce que ça permet, quels sont tous les possibles aussi dans ce qu'on veut faire passer, comment on fait passer une histoire, etc., etc. Donc je trouve ça vraiment intéressant. À chaque épisode, tu as une proposition différente sur le sujet de la narration, sur comment on raconte une histoire finalement. Et donc c'est sur ce point-là, je crois que c'est assez passionnant à suivre malgré tout. Voilà. Donc,
par où on commence ?
Sujet du jour, la narration. On va commencer par, on va en fait partir de questions à chaque fois. On va se poser la question I. Non, qu'est-ce que je raconte ? Qui ?
La question I.
Il manquait une lettre. Donc qui ? Puis on va se poser la question d'où ? Et puis comment ? Quand ? Quoi ? Et pourquoi ? Et donc, on va commencer par le qui et le où pour cette première partie, si tu veux bien. Première partie, donc, qui raconte l'histoire ? C'est un petit peu la base. Hein. Généralement, quand on raconte une histoire, il y a quelqu'un qui la raconte, un narrateur, et puis il y a quelqu'un qui la reçoit, dans ce cas-ci, un téléspectateur. Hein. Quelles sont les différentes possibilités ? Tout d'abord, on peut subdiviser cette question-là en deux parties, puisque il y a le narrateur qui serait la voix, qui raconte vraiment directement l'histoire aux téléspectateurs, mais tu auras peut-être remarqué que dans les séries, il n'y a pas toujours un narrateur qui nous parle directement. Le plus souvent, même, il n'y en a pas. Enfin, le plus souvent, c'est malgré tout assez fréquent qu'il y en ait un, hein, mais bien souvent, on va ne pas avoir de narrateur du tout. Mais par contre, on a toujours au minimum un point de vue, même si ce point de vue n'est pas forcément un point de vue subjectif. Donc il y a plusieurs possibilités. Il y a le point de vue qui est le point de vue soi-disant omniscient, celui qui filmerait tout comme ça de l'extérieur. On nous raconte simplement une histoire, on nous la montre, mais sans à aucun moment sembler prendre position ou interférer en quoi que ce soit. On ne fait que être le miroir de ce qui se déroulerait vraiment, entre guillemets. Sauf que, on s'en doute, omniscient, c'est un terme qu'on utilise parfois quand on parle du narrateur qui n'est pas impliqué dans le récit qu'il raconte, mais ça n'est jamais omniscient. À partir du moment où tu es en train de montrer des images, tu n'es pas en train de montrer d'autres images, donc malgré tout, quoi qu'il arrive, il y a quand même toujours un point de vue qui est apporté, même si dans ce cas-là, il y a quelque part l'illusion qui est maintenue que non, nous ne sommes qu'une fenêtre sur un monde fictif, quoi. Mais malgré tout, ça ne reste qu'une illusion. Bon, ça, c'est la première possibilité. C'est probablement la plus traditionnelle. On peut tous avoir en tête des séries qui fonctionnent comme ça, ne serait-ce que si on regarde, je sais pas, un épisode de Castle par exemple, ce sera le cas. Il n'y a pas vraiment qui que ce soit qui prétend apporter un point de vue.
Oui, c'est ça. C'est la vision qu'on aurait quasiment, une vision dynamique qu'on pourrait avoir au théâtre, par exemple.
Oui, pourquoi pas.
Ouais, oui, mais c'est ça, on est spectateur de ce qu'on nous montre.
Oui, oui, c'est ça. Tout à fait. Donc ça, c'est la première possibilité. Évidemment, on se doute que c'est la possibilité, étant donné qu'on joue beaucoup sur l'illusion qu'il se passerait quelque chose réellement devant nos yeux. C'est aussi la possibilité qui est la moins active pour le téléspectateur. Hein. Il reçoit simplement l'histoire sans vraiment être impliqué, sans vraiment qu'on lui demande son avis ou quoi que ce soit. Deuxième possibilité, là, ce sera une narration un petit peu plus subjective. Alors, que ce soit à travers des moments de mise en scène où on voit que la caméra est plus subjective, ou bien à travers le récit que nous raconterait un personnage, mais on a un point de vue qui adopte celui d'un des personnages de la série, ou bien alors qui tient un propos particulier qui serait le propos d'un auteur, mais qui se fait un petit peu plus se voir déjà que dans la première possibilité. Il y a aussi des moments où la caméra n'est pas vraiment totalement neutre, entre guillemets, toujours, hein, mais on nous la présente comme un dispositif. Ce sera le cas quand on a affaire à des mockumentary, c'est comme ça qu'on dit. Donc les séries qui se présentent sous forme de faux documentaires. Où là, on a un dispositif qui est mis en place et ce qu'on voit, c'est ce que filment des gens. Donc, on sait que c'est filmé par des personnes, mais en même temps, ces personnes n'existent pas vraiment. Et c'est un jeu qui est assez intéressant à suivre aussi. Au niveau de la narration, c'est aussi une possibilité. Et puis, bien souvent, on va aussi avoir un mélange de tout ça. Hein. On n'est pas obligé de s'arrêter à un seul type de narration. Souvent, et évidemment, plus la série va être longue et plus on va mélanger ces différentes formes de narration. Et comme on l'a dit, il y a les narrateurs. Et dans le cas des narrateurs, il y a trois possibilités. Première possibilité, on a un narrateur qui est présent dans l'histoire en elle-même, et donc il est en train de nous raconter ce qui se passe ou bien ce qui s'est passé tout en étant à l'écran. Hein. Ce serait la première possibilité. La deuxième possibilité, on va avoir un narrateur off. Alors, ce narrateur off, parfois, est un des personnages de la série, mais il prend un point de vue extérieur à certains moments de l'épisode. On peut penser, par exemple, à JD dans Scrubs, qui, souvent à la fin de l'épisode, ou enfin régulièrement, reprend un point de vue.
Une sorte de conclusion.
Ouais. Oui, c'est ça, un peu plus général sur l'ensemble de ce qui s'est passé. Où on pourrait se dire, mais finalement, si ça n'était que le personnage en lui-même, probablement qu'il n'aurait pas un point de vue aussi global qui permettrait de regrouper autant ce qu'a vécu, ce que lui a vécu, que ce qu'a vécu, ce qu'ont vécu ses différents camarades. Donc là aussi, c'est une possibilité. Et puis, il y a des moments où c'est une narration mixte. Je pense par exemple à la narration dans 13 Reasons Why, où on a un personnage qui parfois est à l'écran, puisqu'on a une timeline où Anna est en train de vivre ce qu'elle raconte, et puis il y a d'autres moments où elle est sous forme de voix sur cassette en train d'être écoutée, et donc là on a vraiment un narrateur qui est multiple, puisque selon les timelines, selon les moments, elle va être plus ou moins présente à l'écran ou pas. Donc voilà, ça aussi, c'est une possibilité. À partir de là, on peut se poser, pour finir la question, mais d'où est-ce qu'on nous raconte cette histoire ? Comme je l'ai dit, en fonction d'où se trouve le narrateur, ben ce sera soit depuis l'extérieur de l'histoire, soit depuis l'intérieur. Il y a aussi la question de est-ce que c'est plutôt du côté de la mise en scène que cette histoire est racontée, c'est la mise en scène qui lui donne corps, qui lui donne un petit peu de vie, ou bien au contraire c'est plutôt du côté du texte, des dialogues. Bon, évidemment les meilleures séries allieront les deux. Et puis est-ce qu'on nous raconte l'histoire d'un point de vue novice? Il y a beaucoup de séries comme ça où on entre dans la série à travers les yeux d'un nouveau qui rentre dans un milieu, et il nous permet de le découvrir comme ça à travers ses yeux, puisque nous aussi nous ne le connaissons pas. Ça peut être le cas par exemple dans Urgence, ça peut être le cas aussi dans Mozart in the Jungle par exemple, où on a affaire à des milieux que la plupart d'entre nous ne connaissent pas vraiment, avec un langage un peu particulier, un fonctionnement un peu particulier, et le fait d'avoir un nouveau qui débarque nous permet de découvrir ça en même temps que lui. Ou bien au contraire, on a des séries dans lesquelles on nous met directement dans le bain sans à aucun moment nous expliquer, et c'est simplement l'immersion qui petit à petit va commencer à faire sens. Mais au départ, ça peut être super difficile à comprendre ce qui se passe, parce que justement on est lâché comme ça dans un truc totalement inconnu. Ça peut être par exemple le cas d'une série comme je pensais particulièrement à Luck. Tu vois, cette série sur les courses hippiques, oui. On débarque là-dedans. Si tu connais pas un petit peu comment fonctionnent ces paris, tu comprends rien du tout. Mais en même temps, ça te force à essayer de suivre. Et ça peut être aussi une manière intéressante de raconter l'histoire que t'immerger directement dedans. Et puis, débrouille-toi avec ça, quoi. Donc, voilà. Ça, c'était pour les deux premières questions. On passe à la musique.
Ah,
et puis
oui.
On continuera.
D'accord.
Alors, la musique, c'est Happy Jack de The Who, entendu dans Legion.
Happy Jack wasn't old, but he was bad. He lived in the sand at the island. Would all sing, he would take a rum key. So they rode on his head in the furry donkey. The kids come to check, they try. They drop things on his back. Stop Jack or the water's lapping. Then they couldn't prevent Jack from feeling happy. Kids come to Jack.
Troisième partie de cette émission qui vous parle de la narration dans les séries télévisées. Prochain aspect abordé, Aurore.
Eh bien, on va se poser la question de quand et de comment.
Alors,
alors on commence par le quand, c'est-à-dire quand raconte-t-on l'histoire ? Y a à nouveau de nombreuses possibilités. La première possibilité, c'est que l'histoire, elle est racontée en temps réel. On est simplement en train de suivre l'histoire comme si elle se déroulait là, juste au moment où on la regarde. Ça, c'est une première chose. Deuxième possibilité, elle nous est racontée depuis le futur. Et donc, soit on va avoir des allers-retours entre différentes timelines, soit on a simplement un narrateur qui nous raconte les choses alors qu'elles se sont déjà déroulées. Donc, on sait déjà quelque part quelle va en être l'issue, entre guillemets, ou au minimum vers où on se dirige. Autre possibilité, en parallèle différents mondes, des mondes parallèles qui vivent leur vie chacun de leur côté, mais qui en même temps parfois finissent par se croiser. On peut évidemment penser à cette histoire de des dés dans Community où à chaque possibilité de jeu, c'est-à-dire que je sais pas comment exprimer ça, à chaque chiffre qui est donné le dé, on a une sorte de timeline différente qui se met en place, et ces timelines, finalement, elles continuent même quand on ne les voit pas à l'écran, elles continuent sans nous. On peut aussi penser à des moments où on va avoir des parallèles qui sont faits, par exemple, entre la vraie vie, entre guillemets, c'est-à-dire la vie qui nous est représentée, et puis une fiction quelconque que les héros aiment bien regarder aussi à la télévision eux-mêmes, et donc on a une sorte de mise en abîme comme ça des différents récits qui s'interpénètrent. Je pense par exemple à dans les derniers épisodes de The Good Wife, où on la voyait régulièrement regarder une série et qui quelque part faisait écho à tout ce que la série The Good Wife elle-même avait essayé de mettre en place ou d'éviter à certains moments. Et puis, et là, c'est encore différent. Alors, j'ai mis l'histoire nous est racontée depuis le passé. Bon, évidemment, raconter depuis le passé, c'est un petit peu compliqué, mais au minimum, on a certains moments où les personnages se projettent, imaginent ce qu'il va pouvoir se passer. Ça peut parfois durer un certain temps, comme ça, où on voit jusqu'où ça va, ou bien ce qui aurait pu se passer si. Et donc, on a comme ça différents récits imaginaires qui se mettent en route en plus du récit principal. Voilà, donc ça c'était pour le quand. Tu vois qu'il y a aussi plusieurs possibilités pour jouer un petit peu avec la narration à ce niveau-là.
Bien sûr. Et maintenant, le comment ?
Au niveau du comment, maintenant, c'est-à-dire quels sont les différents moyens sur lesquels on va pouvoir jouer. Évidemment, on a déjà parlé de certains d'entre eux. Par exemple, la voix. Hein. Est-ce qu'on a une voix off ? Est-ce qu'on a une voix on ? Ou bien est-ce qu'on a simplement pas de voix du tout ? Ça rentre en ligne de compte. On va aussi avoir dans la mise en récit plein de possibilités différentes, des récits qui s'enchassent les uns dans les autres, parfois à l'infini. Je pense par exemple à un épisode des Simpsons dans lequel on a une personne qui est en train de raconter un récit, et puis dans ce récit, il y a une personne qui raconte un récit, et dans ce récit, il y a une personne qui raconte un récit, etc., etc. Et on a comme ça une sorte de poupée gigonne, c'est comme ça qu'on appelle ça, les poupées russes au minimum, russe, quoi, ouais. Qui où chaque récit contient lui-même un nouveau récit. Et, bon, évidemment, dans le cas de cet épisode-là, ça allait vraiment très loin, mais on a quand même régulièrement ce genre de choses qui arrivent. En plus, comme je l'ai dit, des moments où on a des fictions qui s'invitent au sein de la vie des personnages qui nous sont représentés, que ce soit par la télévision ou par d'autres possibilités de personnages, hein, d'autres médias possibles. Évidemment, on a la possibilité qu'offre le documentaire, hein, la représentation sous forme de documentaire. On a tous les univers parallèles. On a aussi la possibilité de présenter l'histoire, mais d'un point de vue très tellement subjectif que c'en est presque psychiatrique, comme dans Mr. Robot, où finalement le héros suit l'histoire, mais c'est l'histoire que raconte le personnage principal, et donc à certains moments il y a des dévoilements que la vérité était totalement autre, mais que simplement c'était comme ça que le héros l'envisageait, et il voyait pas l'ensemble de la réalité. Et donc cette manière d'envisager le récit permet évidemment régulièrement des sortes de révélations comme ça. Ah, tout à coup je me rends compte que la vie n'est pas du tout comme je l'avais imaginé. Comme on peut nous-mêmes imaginer qu'à certains moments, ça nous arrive, hein, qu'on fasse une grande découverte sur notre propre psychologie, et ça remette en question notre manière d'avoir envisagé notre vie jusqu'ici. Alors évidemment, mais est-ce qu'on va présenter plutôt le récit sous une forme réaliste, ou bien au contraire sous une forme totalement fantaisiste, où on va pouvoir jouer sur les symboles, sur les grands mythes de la société, etc. Ça va aussi avoir son importance. Est-ce qu'on va aussi avoir une vision plutôt méta? On va aussi pouvoir jouer sur le fait qu'un épisode de série, ben, ça se découpe de manière généralement relativement régulière, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, c'est-à-dire par exemple, ben, on prend un épisode de Law and Order et on sait que après chaque scène d'enquête ou bien chaque scène au tribunal, on va avoir la virgule,
c'est chapitré, oui.
Voilà, on a la virgule, le poing, et puis on passe à la suite. Bon, là c'est quelque part l'exemple le plus frappant, mais c'est le cas dans énormément de séries, et au minimum toutes les séries procédurales fonctionnent comme ça, de manière très chapitrée, comme tu le dis. Alors au niveau de la mise en image, ça va pas être la même chose si on présente les choses sous la forme d'un film, sous la forme d'un animé, ou sous la forme plutôt d'une parodie. Et puis aussi on va pouvoir jouer généralement dans les séries sur le fait qu'on mélange un petit peu ces différents modes d'expression au niveau de l'image. Au niveau de la musique, il y a pas mal de choses aussi qui peuvent passer dans la narration simplement grâce à la musique. Un des derniers épisodes de Fargo à ce niveau-là était très intéressant, vu qu'il reprenait la musique de Pierre et le Loup pour l'adapter au personnage de la série, et on voyait à quel point finalement on a une sorte de schéma qui est un peu comme le schéma actantiel. Voilà les différents personnages que l'on peut retrouver dans tout bon récit, et donc ce schéma des personnages de Pierre et le Loup, nous on va pouvoir l'adapter à Fargo, et vous allez voir que ça fonctionne exactement de la même manière, ce qui évidemment démontre de manière assez flagrante le caractère totalement construit et répétitif de ce qu'est une histoire, un récit tel qu'on peut nous le présenter. Donc ça c'est aussi intéressant, mais évidemment si on nous propose de la musique pop, ce sera pas la même chose que si on nous propose une musique qui a été composée exprès pour la série. De même, quand ça a été composé exprès, souvent on va avoir des thèmes différents pour chaque personnage, et donc ça aussi, ça va avoir un sens. Parfois, on va avoir une musique qui est en total décalage avec la période de l'histoire qu'on est en train de nous représenter, et ça aussi, ça dit quelque chose, ça, au niveau de ce que ça nous raconte, c'est tout aussi significatif. Et puis on peut aussi penser par exemple aux épisodes musicaux qui ont aussi une valeur narrative, puisqu'elles nous apportent généralement pas mal d'éléments pour comprendre la saison, l'épisode, voir les personnages en général. Niveau des décors, même chose. Tu te souviens, par exemple, de ce qui avait été expliqué sur Breaking Bad, dans lequel les couleurs qui étaient données aux personnages avaient été particulièrement bien pensées. On peut se dire que dans Breaking Bad, le jeu sur les couleurs, c'est un petit peu la même chose que le jeu sur la musique de Pierre et le Loup dans l'épisode de Fargo. Il y a l'idée comme ça qu'on pourrait attribuer à chaque personnage une couleur différente. Il y a aussi l'idée que en fonction du lieu dans lequel on se trouve, on va avoir des décors très différents. On peut penser par exemple à Game of Thrones, dans lequel généralement d'une ville à l'autre, on va pouvoir voir, notamment au niveau du climat, déjà rien que du climat, des très grandes distinctions possibles. Et donc le décor joue aussi un rôle à ce niveau-là dans ce qu'on nous raconte. Au niveau de la photographie, la photographie va nous dire quelque chose aussi sur les personnages. Je pense par exemple à The Walking Dead, dans lequel la photographie sur les personnages est quand même très importante, parce que ça vient de la BD et que justement il y a quelque chose de très visuel dans la caractérisation des personnages, et donc ça passe aussi par là, mais ça peut être aussi dans une ambiance, tout simplement, dans une sorte de magie qu'on voudrait apporter à l'ensemble du récit, comme par exemple dans Rectify, où la lumière a énormément d'importance. Et puis, au niveau du montage, ce sera pas la même chose de nous présenter un montage où tout se suit de manière totalement fluide, ou bien au contraire, où on a un montage assez nerveux, voire saccadé, comme par exemple quand on a des réminiscences de violence dans Big Little Lies, dans la série. Donc, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc au final, mais tous ces moyens-là, ça révèle qui raconte l'histoire, pourquoi on la raconte, quels sont les rôles des différents personnages dans le système qu'est le récit. Voilà.
Voilà.
On passe à la musique.
Il est grand temps.
Oui. Exogenesis, Symphony Part 2 de Muse, entendu dans Les Simpsons.
Thank you.
Dernière partie déjà de cette émission avec la conclusion et encore deux points abordés peut-être.
Oui, alors quel récit parle-t-on premièrement et puis pourquoi, donc quel est le but de ce récit. D'abord le quoi, donc de quel récit parle-t-on, on peut constater que là aussi il y a plein de possibilités différentes puisque finalement ce sera pas la même chose si le récit en question c'est simplement ce qu'on nous montre ou bien si c'est ce qu'on nous raconte. On voit déjà que c'est pas exactement la même chose, puisqu'il y a moins une prétention à l'objectivité quand on nous raconte que quand on ne fait que nous montrer. C'est encore plus flagrant quand c'est ce que l'on vit, soi-disant en direct, ce que les personnages vivent devant nos yeux et nous racontent directement, ou bien ce que les personnages voient, observent, ce à quoi ils assistent, en tant simplement que spectateurs eux-mêmes, et donc ils ne font que se mettre à notre place aussi pour nous faire partager leur expérience de spectateur. Il y a aussi ce qu'on se raconte à soi-même, et on a beaucoup de séries qui sont comme ça sur un mode finalement très subjectif où on voit beaucoup ce que les personnages se racontent à eux-mêmes au risque parfois de nous tromper totalement sur la marchandise entre guillemets. On a ce qu'on anticipe ou bien ce qu'on imagine et puis on a ce qu'on décompose, c'est-à-dire que il y a certains récits qui peuvent se présenter sous différents prismes et on nous les présente tous et puis à partir de là on reconstruit nous-mêmes quelque chose quoi. Par exemple on peut prendre la série The Affair où on a différents points de vue selon les différents personnages. Et évidemment, en fonction de ce qu'on choisit, le rapport avec les téléspectateurs ne sera pas le même. On peut avoir, comme je l'ai dit, simplement l'illusion totale. Le téléspectateur reste simplement à sa place de spectateur totalement passif. Mais on peut aussi avoir certains modes dans lesquels le spectateur devient complice de la narration à travers des clins d'œil, à travers tout un côté méta et tout. Et donc, on implique déjà davantage le spectateur aussi, par exemple, en brisant le quatrième mur, ce genre de choses-là. Et puis, il y a certains moments aussi où le spectateur devient carrément co-narrateur, c'est-à-dire que si le spectateur commence pas lui-même à reconstruire la signification, la série n'a aucun sens. Et donc, il y a certaines séries qui sont très exigeantes à ce niveau-là, peut-être qu'American Gods sera dans ce cas-là et qu'on le découvrira plus tard. Donc ça, c'est pour le quoi. Et puis pour le pourquoi, quel est le but de ce récit? Eh bien, il y a plusieurs choses. Un récit, d'abord, c'est un système qui se construit en vue d'une fin. Et donc pour ça, il y a une exigence de cohérence et une exigence d'efficacité. On voit que ça suit un certain schéma. Alors schéma narratif, schéma actentiel, on a différents schémas comme ça, mais on a une sorte de répétition du même, mais il y a toujours la même exigence de cohérence et d'efficacité. Mais un récit, c'est aussi une communication entre un narrateur et son public. Et donc, il y a aussi la nécessité de créer créer un lien. Ça suffit pas de simplement raconter une histoire qui finalement correspond à toutes les histoires qui se sont racontées depuis la nuit des temps. Et puis, troisième chose, un récit, c'est aussi se raconter soi-même et se réinventer. Et donc, il y a une nécessité de créativité et de réflexivité. Et donc, on voit finalement que de la simple histoire, eh bien, on passe très vite à la proposition d'un univers total. Raconter une histoire, ça n'est jamais que raconter une histoire, c'est toujours un petit peu plus.
Voilà.
Voilà.
Merci Aurore pour ce cours très instructif sur la narration dans les séries télévisées.
Mais de rien.
Ben oui, belle théorie. Hein. Pour le reste, on va l'étudier. On va se quitter en musique après avoir...
la semaine prochaine.
Exactement. Sachez que cette émission sera podcastée très prochainement via notamment le site internet www.seriefolie.be avec SA Série, le point central où vous pouvez retrouver tous ces sujets rassemblés. Et on va se quitter en musique.
On va se quitter avec Lake Charles de Lucinda Williams, entendu dans True Blood.
À la semaine prochaine, Aurore.
À la semaine prochaine.
He had a reason to get back to Lake Charles. He used to talk about it. He'd just go on and on. He always said Louisiana was where he felt at home. Everybody